Enfin, une édition papier des textes est prévue très prochainement. Demain, nous recevrons les docteurs Guyotta et Terra qui vous parleront des maladies mentales et des dépressions. Et aujourd'hui, nous avons donc le professeur Dominique Dormont, qui est chercheur au CEA, au service de neurovirologie à Fontenay-aux-Roses. Il est président du groupe d'experts français des maladies à prion. Et il va donc vous parler de l'encéphalopathie subaiguë spongiforme. Professeur Dormont, c'est à vous.
Bien. Si je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer en quelques dizaines de minutes de vous présenter ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas sur ces maladies un petit peu particulières qu'on appelle les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles, ESST, c'est plus simple, ou bien encore maladies à prion. Alors, ces maladies sont des maladies qui touchent aussi bien l'homme que l'animal. Chez l'homme, vous avez quatre maladies qui appartiennent à ce groupe, le courroux, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le syndrome de Gershman-Streusler-Scheinker, et l'insomnie fatale familiale. Chez l'animal, vous avez cinq maladies, la tremblante naturelle du mouton et de la chèvre, vieille maladie connue depuis 1732, et dont la transmissibilité a été démontrée en 1936 et 1938 par deux vétérinaires toulousains, Cuiller et Schell, qui ont prélevé le cerveau d'un animal malade, d'un mouton malade, en ont fait un broyat, ont pris une fraction de ce broyat et l'ont inoculé directement dans le cerveau de moutons sains. Et les moutons sains, deux ans plus tard, ont développé une maladie strictement identique à la maladie naturelle. Donc vous voyez, la transmissibilité des maladies à prion est connue depuis 1938. Ce n'est pas quelque chose de récent. Deuxième maladie de ce groupe, l'encéphalopathie bovine spongiforme. On y reviendra à la fin de cet exposé. Troisième maladie, l'encéphalopathie féline spongiforme. Eh bien, 90 chats environ ont développé une maladie à prion en Grande-Bretagne. Deux en dehors de Grande-Bretagne, et on sait maintenant que les chats ont été contaminés par l'agent de la maladie bovine, ce qui montre que les prions sont capables de changer d'espèce et d'induire des maladies dans des espèces qui ne sont pas leur espèce d'origine. Ils sont donc capables, comme on dit, de franchir la barrière d'espèce, ce qui pose, vous vous en doutez, des problèmes en termes de santé publique. Quatrième maladie de ce groupe, l'encéphalopathie transmissible du wison. Vous savez que les wisons sont élevés pour leur fourrure dans des fermes élevages et qu'on nourrit ces carnivores avec des carcasses que l'on récupère dans les abattoirs. Ces carcasses sont des carcasses de bovins ou d'ovins. Eh bien, si la carcasse d'origine est infectée par un prion, le wison va s'infecter. En 7 mois en moyenne, il va développer une maladie, mourir. Et comme souvent dans les élevages de carnivores, quand vous avez plusieurs animaux par cage, lorsque l'un de ces animaux est mort, il est mangé par ses camarades de cage qui, à leur tour, se contaminent. Et c'est comme ça que la maladie a décimé un certain nombre d'élevages au cours des décennies précédentes. Et puis enfin, dernière maladie de ce groupe que l'on connaît extrêmement mal, qui s'appelle la maladie du dépérissement des ruminants sauvages, qui touche l'élan, le cerf, le daim, dans les forêts du Wyoming et du Colorado, aux États-Unis. On n'en connaît pas l'origine, on ne sait pas d'où elle vient, on sait simplement que c'est une maladie à prion et que son incidence augmente depuis ces dernières années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'elles soient naturelles ou animales, ou expérimentales, humaines ou animales, ces maladies ont en commun un certain nombre de caractéristiques. Par définition, elles sont transmissibles à l'animal de laboratoire. Deuxième caractéristique, lorsque le sujet est infecté, la première phase est une phase d'incubation sans symptômes. L'individu est cliniquement sain et cette phase est extrêmement longue au regard de l'espérance de vie. Par exemple, une souris qui vit bon an mal an 2 ans, 3 ans dans un laboratoire fait la maladie en 6 mois à 2 ans. L'homme a des périodes d'incubation qui vont de 16 mois à 47 ans. Pendant toutes ces années, l'individu est cliniquement normal et vous ne pouvez pas voir sur son aspect extérieur qu'il est porteur d'une infection à prion. Lorsque les signes cliniques apparaissent, ils sont la traduction unique de l'altération du système nerveux central. En d'autres termes, le cœur fonctionne normalement, le foie fonctionne normalement, il y a uniquement le cerveau qui fonctionne mal. Et l'évolution se fait sur un mode subaigu. Subaigu, en jargon médical, c'est sans rémission, le patient s'aggrave un petit peu plus tous les jours, et chez l'homme, la durée d'évolution de la maladie est en moyenne de 6 semaines à 6 mois. Toutes ces maladies sont mortelles dans 100% des cas, qu'elles soient humaines ou animales. Lorsqu'on fait l'autopsie de ces sujets, on se rend compte qu'ils ont des lésions, là encore, limitées au système nerveux central. Il n'y a pas de lésions en dehors du système nerveux central. Et que ces lésions sont faites d'une triade. Le premier signe, c'est une mort des neurones. Le deuxième signe, c'est l'apparition de vacuoles, je vous en montrerai dans quelques instants, d'espèces de trous dans les neurones, c'est ce qu'on appelle la spongiose. Et puis, vous savez, dans le système nerveux central, en dehors des neurones, qui sont la population cellulaire qui assure la partie, je dirais, noble des fonctions cérébrales, c'est-à-dire le traitement de l'information, son analyse, sa modulation, il y a à côté une autre population cellulaire qui s'appelle les cellules gliales, qui, elles, assurent très schématiquement le soutien logistique des neurones. Eh bien, ces cellules gliales prolifèrent dans les maladies à prions et on a donc ce qu'on appelle une gliose. En revanche, ce que l'on ne voit jamais, c'est les signes habituels des maladies virales lentes du système nerveux central. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'anomalie du sang, il n'y a pas d'anomalie du liquide céphalo-rachidien. Ces patients n'ont jamais de fièvre, ce qui est exceptionnel pour une maladie infectieuse. Dans toutes les maladies infectieuses, on a habituellement de la fièvre. Eh bien, les sujets infectés n'ont jamais de fièvre. Donc, c'est une maladie infectieuse sans aucune des caractéristiques des maladies infectieuses. Et enfin, avant-dernier point, et ce n'est pas le plus gênant, c'est que le système immunitaire ne répond pas à la présence et à la multiplication de l'agent. À tous les autres agents infectieux connus, il n'y a pas de synthèse d'anticorps, il n'y a pas de processus d'immunologie cellulaire qui permettent de lutter contre la prolifération de ces agents. Tout se passe comme si le système immunitaire ignorait totalement la présence et la multiplication de l'agent, ce qui explique que nous n'avons pas de test de dépistage simple qui puisse être mis en œuvre sur une prise de sang, par exemple, comme c'est possible pour le VIH ou l'hépatite C. Dernier point, et celui-là est particulièrement intéressant, c'est qu'on ne voit pas l'agent infectieux. Quelle que soit la technique que vous utilisez, vous ne voyez rien dans le cerveau des sujets infectés qui ressemblent de près ou de loin à un micro-organisme. Et ceci malgré des titres infectieux extrêmement importants, puisque par exemple chez le hamster qui est inoculé par l'agent de la tremblante du mouton, lorsque le hamster tombe malade, il a un titre infectieux de 10 puissance 11 unités infectieuses par gramme de cerveau, c'est-à-dire qu'avec 1 gramme d'un cerveau de hamster malade, vous tuez 100 milliards de hamsters sains. Eh bien, malgré ces titres infectieux extrêmement élevés, vous ne voyez pas l'agent infectieux. Donc, la problématique des maladies à prions, c'est la suivante. Ce sont des maladies neurologiques qui incubent très longtemps, jusqu'à plus de 40 ans chez l'homme, qui sont mortelles dans 100% des cas, pour lesquelles nous n'avons aucune thérapeutique, pour lesquelles nous n'avons pas de test de diagnostic et pour lesquelles nous n'avons jamais vu l'agent et nous n'en connaissons pas la nature, même si, aujourd'hui, on a une hypothèse explicative extrêmement élégante qui est l'hypothèse du prion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voici le cerveau d'un sujet atteint de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et c'est pour vous montrer ces trous blancs, vous voyez, que vous pouvez observer partout, et qui sont ces vacuoles dont je vous parlais tout à l'heure. Diapo suivante. Les voici à une plus forte résolution en microscopie électronique ou en microscopie optique. C'est la spongiose. Diapo suivante. Alors, ces maladies, pour ce qui est des maladies humaines et dans l'état actuel des connaissances, avec prudence donc, sont des maladies transmissibles, mais pas contagieuses. C'est-à-dire que si, ce qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un dans cette salle est atteint, incube une maladie à prions ou est atteint d'une maladie à prions, il ne va pas contaminer les autres qui sont dans la salle et qui sont simplement assis à côté de lui ou d'elle. Donc, ce sont des maladies transmissibles, mais pas contagieuse. Pour ce qui est des maladies humaines, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre comme type de description le courroux. Le courroux parce que c'est une très belle observation de deux médecins, deux pédiatres, l'un qui est d'origine allemande, qui est Tsigas, et l'autre d'origine américaine, Gesdusek. Diapo suivante. Alors, il faut se remettre dans le contexte historique. Début des années 50, milieu des années 50, dirons-nous, hémisphère sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui à l'époque, je crois, est sous administration mixte néo-zélandaise et australienne. Et vous voyez que cette île est faite d'une épine montagneuse, et d'un côté une plaine vers le sud, et au contraire, les montagnes qui vont directement à la mer dans le nord. Papouasie-Nouvelle-Guinée est peuplée de papous qui, à l'époque, vivent encore comme à l'âge de pierre. Et ces papous habitent essentiellement les chaînes montagneuses, diapo suivante, et une peuplade va être particulièrement intéressante, c'est celle qui vit dans cette région et qui s'appelle la peuplade des forêts. Alors, Tsigas et Gage du Sec se rencontrent par hasard dans cette région de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et Tsigas, qui est là depuis un peu plus longtemps, dit qu'il a vu chez les papous de la peuplade des forêts une maladie qu'il n'a jamais rencontrée ailleurs dans le monde, qui est une maladie neurologique qui tue 2 à 3% de la population par an, c'est donc un problème important, hein, et qui atteint 3 fois plus les femmes que les hommes et beaucoup les enfants. Diapo suivante. Et la première chose qu'il faut bien prendre en compte dans l'analyse de cette maladie, c'est qu'elle survient dans une zone géographique extrêmement montagneuse. Hein? Les vallées sont très encaissées, les contacts de vallée à vallée sont difficiles, les cols sont à plus de 3000 mètres, ce qui vous explique que quand on est papou et qu'on vit comme à l'âge de pierre, hein, il y a peu d'échanges de vallée à vallée, et donc le taux de consanguinité au sein d'une peuplade, au fond d'une vallée donnée, est élevé. Hein? Diapo suivante. Alors, nos deux médecins prennent leur sac à dos et vont voir les forêts. Et effectivement, ils rencontrent une peuplade où il y a un nombre assez considérable de maladies neurologiques qui se traduisent de la façon suivante. Le premier signe clinique est une euphorie. Hein, et sur cette euphorie extrêmement importante, très caractéristique, apparaissent des signes d'incoordination des mouvements. Et le premier signe d'incoordination des mouvements, c'est une incoordination des yeux, si bien que ces sujets se mettent à loucher. Vous voyez, ils sont heureux et ils louchent. Hein. Et ceci va se majorer, hein, et ça va évoluer d'une part vers un état qu'on appelle de l'habilité émotionnelle importante, c'est-à-dire qui passe du rire aux larmes en quelques secondes, hein, et d'autre part vers une complication de ces troubles de la statique et de ces troubles de la régulation du mouvement qui est liée à une atteinte du cervelet, et ça vous explique pourquoi ces femmes, pour tenir debout, sont obligées d'utiliser des bâtons. Au bout d'un certain temps, de quelques semaines, elles vont se mettre à avoir des chutes fréquentes. Au début, elles pourront ou ils pourront se relever, et puis au bout d'un certain temps, ils ne pourront plus se relever. Et vous imaginez que dans un tel environnement, quand on devient grabataire et qu'on ne peut plus bouger, eh bien on meurt très rapidement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voici des huttes de papous, et vous voyez ici une malade grabataire, une autre qui a déjà un petit peu de mal à se lever. Si on avait une diapositive de meilleure qualité, on verrait que cette petite fille a un strabisme louche. Hein. Diapo suivante. Vous avez cet enfant qui ne peut tenir debout que parce que son frère le soutient, hein, et vous voyez que pour tenir debout, il est obligé d'élargir son polygone de sustentation, ce qui montre bien les troubles de l'équilibre qui existent au cours de cette maladie. Et puis là, un autre signe clinique qui apparaît assez fréquemment au cours du courroux, c'est la présence de mouvements spontanés, involontaire et incoercible, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas contrôler. Hein. Vous voyez les mouvements des bras et parfois des mouvements des jambes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et voici une petite fille au stade terminal de la maladie qui a en particulier un signe assez spécifique qui est la paralysie des muscles de la nuque. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quand ces deux médecins ont fait l'autopsie, ce qui était déjà extrêmement difficile à obtenir dans un tel environnement, hein, l'autopsie de patients, voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont vu ces trous dans le cerveau. Hein, et on comprend, quand on voit cette image, que la comparaison avec une éponge ait été faite et qu'on appelle ces maladies des encéphalopathies spongiformes. Hein. Alors, la première question que se sont posées ces deux médecins, c'est, puisqu'il n'y a pas de communication de vallée à vallée, puisque seules les forêts sont atteintes et pas leurs voisins, est-ce que par hasard, ce ne serait pas une maladie génétique, hein, qui serait liée, dont le développement serait lié au haut niveau de consanguinité? Alors, ça a été une des premières hypothèses, et pour vérifier cette hypothèse, bien, ce qu'il fallait, c'était trouver un petit forêt qui soit transplanté dans un autre cadre que celui de sa tribu d'origine pour voir s'il développait ou non la maladie. Si quelqu'un est atteint d'une maladie génétique et qu'il est à Paris, vous le transplantez à New York, il fera quand même sa maladie, hein, puisque c'est dans ses gènes. D'accord ? Eh bien, ils ont trouvé cette situation avec, parce qu'il y avait quand même quelques échanges avec la tribu d'à côté, qui était la tribu des Curucucu, et il y avait un petit forêt élevé par une maman Curucucu, il y en avait plusieurs, et aucun de ces enfants transplantés très tôt dans leur vie ne faisait de courroux. Donc ça voulait dire que ce n'était pas une maladie génétique. Donc ça voulait dire qu'il existait dans l'environnement des forêts un facteur toxique ou infectieux qui était à l'origine de ces maladies.
Et à ce moment-là, ils ont cherché le contre-exemple. Ils ont cherché des petits d'une autre tribu, transplantés et vivant avec les forêts. Ceux-là, s'il s'agissait bien d'une maladie infectieuse ou d'une maladie par toxique, devaient développer un courroux. Eh bien, les petits curucucus vivant chez les forêts, transplantés chez les forêts, ne développaient jamais de courroux. Donc, pour développer une maladie à prion, ou pour développer un courroux, il faut deux choses. Il faut avoir une génétique particulière et être exposé à un agent infectieux. Il faut les deux. Il y a donc une dualité génétique-transmissibilité que l'on va retrouver dans toutes les maladies de ce groupe, sans exception, sauf peut-être l'encéphalopathie bovine. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, depuis qu'on a expliqué... Alors, comment se transmettait l'agent infectieux? Eh bien, c'était au travers de rites cannibales. Hein. Lorsque quelqu'un mourait, il était dépecé et mangé par la tribu. Comme souvent dans ce type de tribu, ou dans ce type de rite, pardon, les hommes mangeaient le cœur et les muscles pour le courage et la force physique, et les femmes et les enfants mangeaient le reste. Or, parmi le reste, il y a le cerveau. C'est le cerveau le plus infectieux. Et donc, les femmes étaient exposées de façon répétée à l'agent infectieux, ce qui vous explique qu'il y avait trois fois plus de femmes que d'hommes qui développaient un courroux. Alors depuis que ces rites se sont arrêtés, eh bien vous voyez que le nombre de courroux a diminué. Il y en a encore, le dernier a quelques mois, et le dernier patient donc qui a développé un courroux il y a quelques mois avait participé à un repas funéraire et un seul 47 ans avant, hein, ce qui montre bien que la maladie peut incuber 47 ans. Hein. Alors, vous voyez, le courroux, c'est un modèle d'étude absolument phénoménal, hein, qui en plus montre l'élégance intellectuelle de ces deux médecins qui ont disséqué tout ça en restant sur place et en regardant vivre les papous. Hein. Et ça a permis de montrer l'importance de cette dualité génétique-transmissibilité dans les maladies à prion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la seule chose que l'on soit capable de mettre en évidence dans ces maladies, c'est une anomalie des protéines de l'individu qui est infecté. Certaines de ces protéines vont s'accumuler au cours de la maladie. Alors, ce sont des protéines que nous avons avant d'être infectés, mais que nous allons accumuler si nous sommes infectés. Parmi ces protéines, il y en a une particulièrement importante, qui est la protéine PRP, pour Protease Resistant Protein, ou protéine du prion. Hein, cette protéine va s'accumuler proportionnellement au titre infectieux. Elle est, dans l'état actuel des connaissances, indissociable de l'agent infectieux. Hein, et dans l'hypothèse du prion, elle serait l'agent infectieux lui-même. Encore une fois, c'est une protéine de l'individu. Hein. Diapo suivante. Alors voici cette protéine PRP chez l'homme. Hein. Alors pour ceux qui aiment un peu la chimie, très rapidement, une séquence d'octapeptides, un domaine hydrophobe, un pont disulfure avec deux sites de glycosylation et à son extrémité C-terminale, un système qui va permettre à la protéine de s'accrocher à la face externe de la membrane cellulaire. C'est donc une protéine qui normalement, je dis bien normalement, est à l'extérieur de la cellule, accrochée à la face externe de la membrane cellulaire. Diapositive suivante. Alors quelle est la différence entre la protéine PRP dont vous et moi sommes tous porteurs et celle qui, un beau matin, va se mettre à s'accumuler proportionnellement au titre infectieux chez l'individu qui est infecté. Bien, vous savez qu'une protéine s'est caractérisée par deux choses. D'abord, sa séquence primaire en acides aminés. Une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés dans un ordre particulier et en un nombre fini. Eh bien, la séquence de ces acides aminés détermine les caractéristiques de cette protéine. La deuxième chose qui détermine les caractéristiques d'une protéine, c'est la structure tridimensionnelle, c'est la structure dans l'espace de la protéine. Hein. Et ce sont ces deux choses qui vont faire que la protéine va remplir ou non sa fonction. Eh bien, la séquence en acides aminés de la protéine normale et de la protéine pathologique, de celle qui est probablement l'agent infectieux, n'est pas différente. Donc la seule différence qui existe entre la protéine normale et la protéine pathologique, c'est la structure tridimensionnelle. C'est l'arrangement de la protéine dans l'espace. Hein? Alors, si ce concept est vrai, hein, il n'est pas encore formellement démontré. On a beaucoup d'arguments pour penser qu'il est vrai, mais encore une fois, il n'est pas démontré. Si ce concept est vrai, voyez tout de suite où on va, hein, sur le plan de la révolution, hein, dans notre façon d'appréhender la biologie, c'est-à-dire qu'un simple changement de forme d'une protéine pourrait suffire à générer un nouvel agent infectieux. Hein? Alors, ce changement de forme fait que la protéine devient résistante aux enzymes qui habituellement la dégradent. Alors, vous avez ici la protéine, telle qu'on peut l'identifier par une méthode qu'on appelle le Western blot. Eh bien, vous voyez que si auparavant on la digère par une enzyme qui détruit les protéines, ici c'est la protéinase K, la protéine disparaît. Alors que chez l'individu infecté, la protéine non seulement est là en abondance, mais en plus, elle résiste à la digestion par les enzymes protéolytiques. Donc, la caractéristique moléculaire des maladies à prion, c'est l'accumulation de la protéine du prion, la protéine PRP, mais cette protéine PRP s'accumule parce qu'elle change de forme, et ce changement de forme va faire qu'elle devient résistante aux enzymes qui habituellement la dégradent. Hein ? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, vous savez que une protéine s'est synthétisée grâce à un gène, hein, et que donc, lorsqu'on voit une protéine s'accumuler, on peut penser que le gène hyperfonctionne, hein, a augmenté de façon anormale son expression. Ben, ce n'est pas du tout le cas ici. Hein, dans les maladies à prion, le gène qui code la protéine PRP fonctionne normalement, mais c'est la protéine qui, en changeant de forme, va devenir inaccessible au catabolisme cellulaire, hein, au processus de dégradation qui sont habituellement en place dans la cellule. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le gène est connu. Il est sur le chromosome 20 chez l'homme. C'est un gène très simple, hein, c'est un gène assez basique qui n'a pas une mécanique d'expression extrêmement complexe. Diapo suivante, s'il vous plaît. Quelques mots maintenant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La maladie de Creutzfeldt-Jakob se présente sous trois formes. Une forme qu'on appelle dans le jargon médical sporadique. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie sporadique ? C'est une maladie qui est d'apparence spontanée, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de lien en évidence entre les malades et vous ne mettez pas de lien en évidence entre les malades et l'environnement. La maladie est d'apparence spontanée. 80%, 90% des Creutzfeldt-Jakob sont sporadiques et touchent l'homme et la femme aux alentours de 65 ans. Une autre forme qu'on appelle forme iatrogène, c'est-à-dire une forme liée à une contamination au travers d'un acte médical ou chirurgical. C'est donc là une forme infectieuse. Et enfin, troisièmement, il y a des familles de Creutzfeldt-Jakob, hein, où à chaque génération, il y a 3 ou 4 Creutzfeldt-Jakob, où là, ce sont véritablement des maladies génétiques. Donc vous voyez, 3 formes de Creutzfeldt-Jakob, une forme spontanée, une forme infectieuse, une forme génétique. Eh bien, les 3 formes sont transmissibles à l'animal, même la forme génétique. Et c'est le seul exemple de maladie génétique qui soit transmissible horizontalement d'individu à individu, non relié génétiquement. Hein ? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est donc la plus fréquente des ESST, mais c'est une maladie rare. Il y en a, en gros, 1 nouveau cas par million d'habitants et par an. C'est-à-dire qu'en France, il y en a à peu près 60 par an. Hein ? Et pour aller un petit peu plus loin, sur 10 000 Français qui décèdent, 1 meurt de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, vous voyez, c'est une maladie rare. Hein ? C'est une démence, cliniquement, qui touche, encore une fois, l'homme et la femme de 60 à 65 ans et dont on ne connaît pas l'origine. Diapo suivante. Alors, les signes cliniques sont essentiellement la démence, les secousses musculaires et les troubles de l'équilibre. Diapo suivante. Dans les formes familiales, il existe toujours une mutation dans le gène codant la protéine PRP. Donc cette protéine PRP qui change de forme chez l'individu infecté et qui s'accumule, qui est certainement l'agent infectieux lui-même, hein, eh bien est mutée dans les formes familiales. Et on sait que cette mutation est responsable de la maladie, puisque dès lors que vous êtes porteur de la mutation, dans 100% des cas, malheureusement, vous faites la maladie tôt ou tard. Diapositive suivante. Alors voici quelques-unes des mutations qui ont été identifiées au niveau de l'acide aminé 200, 210 ou 178. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors en 2 diapos, les maladies animales, la tremblante du mouton, assez fréquente partout dans le monde, hein, sauf dans 2 pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont réussi à l'éradiquer. Alors c'est une maladie qui se présente avec des troubles neurologiques, hein, et un prurite, hein, l'animal se gratte tout le temps, et ça vous explique que cette brebis, par exemple, n'ait plus de laine sur le dos, tellement elle s'est grattée contre les bas-flancs de son box. Diapositive suivante. Puis la maladie des vaches folles, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de traitement de ces maladies. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement possible. Hein. On ne sait même pas ralentir l'évolution de la maladie. Hein. On est vraiment totalement désarmé devant les maladies à prion. Alors, il y a quelques molécules efficaces dans les modèles animaux, hein, mais on doit les donner à partir du jour de l'infection, hein, et ils ne parviennent pas à ralentir et à annuler totalement l'infection. Donc, elles ne sont pas utiles, ces molécules, en pathologie humaine. Donc, pour l'homme aujourd'hui, pas de recours dans les maladies appriantes. Diapo suivante. Alors, ces maladies sont transmissibles facilement au sein de la même espèce. L'exemple de la transmissibilité de la tremblante du mouton tout à l'heure vous l'a montré, mais ils sont aussi transmissibles entre espèces différentes. Alors voici toutes les transmissions rapportées dans la littérature dès lors que l'animal receveur était inoculé directement dans son cerveau. Bien, vous voyez par exemple que la maladie de Creutzfeldt-Jakob de l'homme est transmissible au singe, au cochon d'Inde, au hamster, à la souris, au rat, à la chèvre, au chat, au furet et au wisant. Hein? La transmissibilité inter-espèce est plus difficile qu'au sein de la même espèce. Et on connaît le déterminisme de cette transmissibilité inter-espèce, c'est la similitude de la protéine PRP du donneur et du receveur. Plus ces deux protéines sont proches, plus la transmission sera facile. C'est le cas, par exemple, de l'homme et du singe. La protéine PRP du singe est à 98% identique à celle de l'homme. La transmission homme-singe se fait dans 95% des cas. La souris a une PRP qui, elle, est à 70% seulement homologue à celle de l'homme. La transmission homme-souris ne se fait que dans 15% des cas. Donc, vous voyez, ça vous montre que cette protéine PRP, elle a deux rôles. Lorsqu'elle est anormale, sous sa forme anormale, elle est probablement l'agent infectieux, ou au moins elle est intimement associée à l'agent infectieux. Lorsqu'elle est sous sa forme normale, elle est le récepteur obligatoire à l'agent infectieux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors malheureusement, pour nous, cette contamination entre espèces est aussi possible par voie orale. Hein. Et par exemple, lorsque vous nourrissez un singe avec le broyat de cerveau d'un patient décédé de maladie de Creutzfeldt-Jakob, votre singe, 6 à 8 ans après, fait une maladie de Creutzfeldt-Jakob expérimentale. Donc il y a possibilité de franchissement de la barrière d'espèces par voie orale. Hein. Et ça, vous vous doutez que ça pose des questions assez importantes par les temps qui courent. Diapo suivante. Alors, ce qui est absolument fascinant, c'est le point suivant. Vous savez qu'habituellement, quand on a une maladie infectieuse, quand on contracte une maladie infectieuse, je ne sais pas moi si quelqu'un a un virus grippal dans cette salle, nous aurons pour une bonne partie d'entre nous la grippe dans quelques jours, eh bien le virus dont nous serons porteurs, ce sera celui que nous aura courtoisement donné celui ou celle qui était infectée dans cette salle. Dans les maladies à prions, ce n'est pas ça. Hein? Quand on infecte par exemple un singe avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob humaine, que fait-on ? On prend le cerveau de l'homme décédé, on extrait les protéines et particulièrement la protéine pathologique PRP, qu'on appelle PRP-RES, et cette protéine anormale, on l'inocule au singe. Le singe, quelque temps plus tard, fait une maladie de Creutzfeldt-Jakob, et effectivement, on constate qu'il a accumulé cette protéine PRP pathologique dans son cerveau. Mais la protéine que le singe a accumulée n'est pas la protéine humaine qui a servi à l'infecter. Le singe accumule sa propre protéine. Donc il faut imaginer un mécanisme par lequel la protéine humaine anormale, qui est l'agent infectieux, a interagi avec son homologue normal du singe, lui a transmis son anomalie, et un second mécanisme par lequel cette protéine de singe rendue anormale a propagé son anomalie au sein de l'organisme infecté. Donc vous voyez qu'on est très très loin des modes de raisonnement habituels de la pathologie infectieuse. Diapo suivante. Alors, le problème qui est posé par toutes les maladies infectieuses, qui se traduisent par une longue phase d'incubation sans signe clinique, est toujours le même. Que se passe-t-il pendant la phase d'incubation ? Est-ce que l'agent infectieux est planqué quelque part sans se multiplier, ou bien est-ce qu'on est dans une situation du type du VIH, par exemple, où le virus se multiplie constamment, hein, à des hauts niveaux, hein, et puis dégrade progressivement l'organisme dans qu'il a infecté. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les prions. Quand vous inoculez une souris, par exemple, hein, par voie intrapéritonéale ou par voie intraveineuse, vous voyez que la rate et les ganglions, c'est-à-dire le système immunitaire, devient infectieux à partir du jour 7 post-inoculation. Le titre infectieux devient assez important et à partir du jour 50 va être en plateau jusqu'à la mort de l'animal. L'agent infectieux n'est détectable dans le cerveau qu'environ dans ce modèle à partir du jour 80. Et vous voyez que le titre infectieux dans le cerveau monte de façon quasi exponentielle jusqu'à la mort de l'animal. Mais les signes cliniques n'apparaissent que là, à 160 jours post-inoculation. Donc ça veut dire que pendant toute la phase d'incubation, il y a des organes qui sont hautement infectieux. L'agent se multiplie dans le cerveau et dans le système immunitaire. tout du moins chez la souris. Diapo suivante. Et ceci a conduit l'Organisation mondiale de la santé à classer les organes en fonction du risque qu'ils présentent en quatre catégories. Catégorie 1, de haute infectiosité, c'est le système nerveux central. Je me permets de rappeler que l'œil et l'oreille interne appartiennent au système nerveux central. Deuxième catégorie d'infectiosité moyenne, c'est tout ce qui contient beaucoup de systèmes immunitaires, la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques, l'intestin et le placenta. Catégorie 3, infectiosité minimale, c'est ce qui, par exemple, les gros troncs nerveux, le foie, le pancréas, le poumon. Et catégorie 4, dans laquelle on n'a jamais détecté d'infectiosité. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a le muscle squelettique, c'est-à-dire notre beefsteak, hein, le lait, et puis le sérum, et vous connaissez l'utilisation du sérum qui est faite en médecine, et donc c'est important que le sérum ne transmette pas l'infectiosité dans l'état actuel des connaissances, tout du moins. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les paramètres de la transmission des prions? Comme toujours, vous avez des paramètres liés à l'inoculum, c'est-à-dire la dose d'agent infectieux, l'espèce donneuse, et des paramètres liés à l'hôte, la voie d'inoculation, la génétique de l'hôte, c'est-à-dire son gène de la PRP, et puis son âge et son sexe, mais de façon très mineure. Diapositive suivante. Alors, voici par exemple les effets de plusieurs voies d'inoculation. Si vous calculez la plus petite quantité de broyat de cerveau, qui est suffisante pour vous donner la maladie dans 100% des cas lorsque vous l'inoculez par voie intracérébrale et que vous appelez ça l'unité infectieuse, il vous en faut 10 fois plus pour avoir le même résultat en passant par voie intraveineuse, 50 fois plus par voie intrapéritodéale, 25 000 fois plus par voie sous-cutanée et 125 000 fois plus par voie orale. Donc ça veut dire que la voie royale d'inoculation par les prions, c'est la voie intracérébrale. Donc ça veut dire qu'à l'hôpital, là où il faudra faire attention, c'est en neurochirurgie, en ophtalmologie, en ORL et en neurologie, c'est-à-dire partout où on touche le système nerveux. Hein? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est absolument fascinant dans ces agents infectieux, outre que probablement ils sont composés de protéines uniquement sans génétique, hein, ce qui est déjà en soi une révolution, ce qui est absolument fascinant, c'est leur résistance à l'inactivation. Eh bien, par exemple, lorsque vous utilisez les radiations ionisantes, hein, vous savez qu'on utilise l'irradiation à 20 à 35 kilogrès pour inactiver, pour stériliser des instruments chirurgicaux. C'est un procédé tout à fait efficace pour inactiver les bactéries et la quasi-totalité des virus. Eh bien, ça n'a aucun effet sur les prions. Aucun effet. Hein. Diapo suivante, et voici un exemple de l'énorme résistance des prions, 24 heures pardon, à 160 degrés en chaleur sèche, n'inactive pas totalement, 10 puissance 7 unités infectieuses des prions. 320 degrés pendant une heure, n'inactive pas totalement, 10 puissance 7 unités infectieuses des prions. Ça en inactive beaucoup, mais il en reste un petit peu. 600 degrés pendant 15 minutes, n'inactive pas totalement les prions. Hein? Donc vous voyez, énorme résistance, hein, à l'inactivation, et on commence à voir, à comprendre pourquoi ça pose des problèmes de santé publique, hein, alors que ce sont des maladies rares. Diapo suivante. Il y a trois procédures qui aujourd'hui ont une certaine efficacité. Le traitement à la soude normale pendant une heure, le traitement à l'eau de Javel pure pendant une heure, ce qui est les sauces à l'eau de Javel dans les hamburgers sont délicates, hein, et troisièmement, l'autoclave, c'est-à-dire la chaleur humide sous pression, hein, à 134-136 degrés pendant au moins 18 minutes. Voilà les trois procédés qui ont une certaine efficacité sur les prions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on fait le compte de ce qui inactive et de ce qui n'inactive pas, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on applique un procédé qui ne fait rien sur les acides nucléiques, mais qui modifie la forme des protéines, on perd l'infectiosité. Alors que quand on applique des procédés physico-chimiques qui altèrent les acides nucléiques sans modifier les protéines, l'infectiosité est conservée. Donc tout se passe comme si les acides nucléiques, qui sont la base de la génétique, qui sont la base des micro-organismes, dans ce cas particulier, n'ont absolument aucun effet. Et tout se passe comme si, au contraire, la structure tridimensionnelle des protéines soit vraiment le support de la pathogénicité, le support du caractère pathogène de ces agents infectieux. D'où l'idée proposée par Alpers en 66, puis par Raymond Lataget à l'Institut Curie en 1971, et reprise par Stanley Prosiner, le prix Nobel d'il y a 2 ans, à la fin des années 80, que ces agents pouvaient être composés uniquement de protéines, et dans le cas précis, de la protéine PRP, hein, pathologique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quel est le rôle de cette protéine PRP? Eh bien, chez l'individu normal, on ne sait pas à quoi elle sert. En revanche, chez l'individu infecté, la protéine PRP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, règle la barrière d'espèce, règle la susceptibilité individuelle, c'est-à-dire que plus vous exprimez de PRP à la surface de vos cellules, plus vous serez sensible à l'infection par les prions. Et enfin, elle a un rôle central dans la pathogénèse, puisque c'est parce qu'elle change de forme qu'elle s'accumule, c'est parce qu'elle s'accumule qu'elle tue la cellule dans laquelle elle s'accumule, et comme cette cellule dans laquelle elle s'accumule, c'est un neurone, vous savez qu'on a un certain stock neuronal que l'on ne peut pas renouveler, ben, au-delà d'un certain nombre de neurones qui sont morts, l'individu va mourir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les Suisses ont fabriqué des souris, comme on dit dans notre jargon biologique, KO pour le gène de la PRP. C'est-à-dire qu'avec des procédés de biologie moléculaire, ils ont empêché, chez des embryons de souris, le gène de la PRP de s'exprimer. Ils ont donc obtenu des souris sans PRP. Hein ? Eh bien, ces souris sont parfaitement viables et elles ne sont pas infectables par les prions. Donc, pour être infectable par un prion, il faut exprimer la protéine PRP normale à la surface de ces cellules. Ce qui montre bien le rôle central de cette protéine. Hein, quand elle est normale, elle est le récepteur obligatoire à l'agent infectieux. Quand elle est sous sa structure tridimensionnelle anormale, elle est probablement l'agent infectieux lui-même. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, vous savez que dans la structure tridimensionnelle des protéines, vous avez deux grands types de sous-structures. Les hélices, qu'on appelle les hélices alpha, et les feuillets bêta plissés, qui sont en gros des tôles ondulées, hein, pour être schématique. Eh bien, la protéine PRP normale, qu'on appelle la PRPC, a majoritairement des structures en hélice, alors que la protéine pathologique associée à l'agent infectieux a majoritairement des structures en feuillets bêta plissés. Diapositive suivante. Et ceci a conduit Stanley Prusiner, donc le prix Nobel de 1997, à proposer, après modélisation informatique, que la protéine de PRP normale serait composée de 4 hélices, diapositive suivante, et que la transition entre la protéine normale et la protéine pathologique infectieuse se fait par perte de 2 des 4 hélices et acquisition en lieu et place de 4 structures en feuillet bêta plissé. C'est ce qu'on appelle la transconformation, la modification de la conformation, c'est-à-dire la modification de la structure tridimensionnelle. Eh bien, l'hypothèse du prion, hein, et encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, même si aujourd'hui on pense que c'est de loin la plus probable, l'hypothèse du prion, c'est donc ça, c'est une modification de la structure tridimensionnelle par perte de 2 hélices, acquisition à la place de 4 feuillets bêta plissés, et à ce moment-là, cette protéine dont la structure tridimensionnelle est modifiée devient un agent infectieux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, grâce aux Suisses de l'équipe de Kurt Wüthrich à Zurich, on sait maintenant à quoi ressemble vraiment la protéine PRP normale. Eh bien, voilà la protéine PRP normale. Vous voyez qu'il y a 3 hélices alpha et non pas 4, comme l'avaient prédit les modèles informatiques. Mais c'est déjà bien d'avoir prédit ça. Hein. Et puis, 2 petits feuillets bêta plissés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment 2 parties dans la protéine. Une partie très compacte, très dense, très structurée, et puis une longue queue flexible. Hein, et cette longue queue flexible va pouvoir adopter beaucoup de conformations possibles en fonction du micro-environnement dans lequel elle est. Alors, on n'a pas la même chose pour la protéine anormale, donc on ne sait pas toujours si l'hypothèse du prion est la bonne. Hein. Voilà, il faudra attendre encore un petit peu. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous disais tout à l'heure que ces agents résistent à tous les procédés qui habituellement inactivent les virus et les bactéries. Eh bien, ceci a engendré un certain nombre d'accidents à l'hôpital. Alors, 3 cas de Creutzfeldt-Jakob ont été observés après transplantation de cornée. Vous savez qu'on récupère les cornées sur les cadavres dans les morgues. Eh bien, si malheureusement on prélève la cornée chez quelqu'un qui est infecté, mais dont on ne sait pas qu'il est infecté, le receveur va être infecté et va développer un Creutzfeldt-Jakob. 2 cas après utilisation d'électrodes que l'on descend directement dans le cerveau. 5 cas après utilisation d'instruments de neurochirurgie qui avaient servi à opérer quelqu'un dont on ne connaissait pas le statut infectieux, mais qui était infecté. 104 cas, ça fait beaucoup, après greffe de Durmer. Vous savez, la Durmer est l'enveloppe du cerveau. Lorsqu'il y a des tumeurs importantes ou des accidents de la route avec délabrement de la boîte crânienne importante, on est parfois contraint de greffer une Durmer au patient. Eh bien, si ce greffon provient d'un sujet qui est infecté par un prion, vous allez transmettre la maladie. L'hormone de croissance, c'est à peu près la même chose, hélas. Vous savez que l'hormone de croissance, jusqu'en 1985-87, était extraite à partir d'hypophyses que l'on prélevait sur les cadavres dans les morgues. Hein, on purifiait l'hormone et cette hormone redonnait une vie normale aux gens qui autrement auraient eu une petite taille pathologique ou bien qui auraient eu d'autres types de complications, par exemple post-insuffisance rénale. Eh bien, il se trouve que probablement quelques hypophyses ont été prélevées chez des patients qui étaient infectés mais dont, encore une fois, on ne connaissait pas le statut infecté. Hein. Ces hormones, ces hypophyses ont été mises dans l'ensemble de la chaîne de fabrication de l'hormone et ça a contaminé 130 personnes qui aujourd'hui sont mortes. Hein. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour rester sur l'hormone de croissance, trois pays ont été particulièrement touchés. Enfin, il n'y en a que trois, fort heureusement. Les États-Unis, chez qui il y a à peu près une 20-25 cas. Le Royaume-Uni, où il y en a un peu plus, 27-28. Et la France, nous en sommes à 65 aujourd'hui. Hein. Alors, grâce, et c'est pas fini, hein, grâce aux épidémiologistes et aux inspecteurs généraux de la santé, on a pu apprendre que la période probable de contamination s'est située entre le 1er janvier 84 et le 1er avril 85. Hein. 968 enfants ont été traités pendant cette période, 65 sont morts, et il y en a d'autres encore qui vont développer la maladie. Donc vous voyez que pour des maladies rares, hein, en raison de leur résistance particulière, lorsqu'un accident arrive, il est dramatique. Alors, l'hormone de croissance qui est utilisée depuis 1987 est une hormone fabriquée par génie génétique et qui donc n'a plus ce risque. Hein. Donc si certains d'entre vous ont des gens de leur famille qui sont actuellement traités par l'hormone de croissance, qu'ils se rassurent, cette hormone-là, aujourd'hui, ne peut pas transmettre une maladie à prion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on a vu ces enfants atteints par l'hormone de croissance, on s'est posé un certain nombre de questions, et la première question qu'on s'est posée, c'est cette maladie de Creutzfeldt-Jakob liée à l'hormone de croissance n'a-t-elle pas des caractéristiques nouvelles par rapport à ce qu'on connaît? Et en particulier, y a-t-il pas un risque sanguin? Et dans mon laboratoire, on a prélevé donc des globules blancs de quelques patients présentant cette maladie de Creutzfeldt-Jakob après un traitement par l'hormone de croissance. On a inoculé des hamsters et on a transmis la maladie. Et ceci vous explique pourquoi, quand vous allez donner votre sang, on vous demande « Avez-vous été traité par l'hormone de croissance extractive ?» Et si vous répondez oui, on doit vous exclure du don de sang. Et si le médecin ne vous le demande pas, vous êtes en droit de lui rappeler qu'il ne fait pas son travail. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, comme je vous l'ai dit pour le courroux tout à l'heure, on a toujours une dualité génétique-transmissibilité dans ces maladies. Et dans le cas particulier de l'hormone de croissance, on s'est posé la question de savoir comment se fait-il que sur les 968 qui ont été exposés au risque, 65 ont fait la maladie et pas 968. Et on s'est donc posé le problème d'une structure génétique particulière des enfants qui avaient développé la maladie. Diapo suivante. Et donc, on a recherché des mutations dans le gène codant la PRP et on n'a rien vu. En revanche, il existe au niveau du 129e acide aminé un polymorphisme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir soit un acide aminé qu'on appelle la méthionine, soit un acide aminé qu'on appelle la valine. C'est 50-50. Ça n'a aucune incidence sur les fonctions intellectuelles, les fonctions physiques, etc. C'est ce qu'on appelle un polymorphisme cliniquement silencieux. Dans la population générale, 50% des gens sont soit méthionine-méthionine, soit valine-valine, c'est-à-dire homozygote au codon 129, et 50% des gens sont hétérozygote méthionine-valine au codon 129. Bien, quand on regarde les enfants qui ont été traités par l'hormone de croissance et qui ont fait une maladie de Creutzfeldt-Jakob, 90% sont homozygote au codon 129 et seulement 5 à 10% sont hétérozygotes. Les Anglais ont la même chose dans leur série, les Américains ont la même chose dans leur série, les Anglais sont même allés un peu plus loin, ils ont montré que cette structure génétique particulière qui consiste à avoir les deux mêmes acides aminés sur ces deux chromosomes au codon 129 de la protéine PRP constitue le déterminant génétique de la susceptibilité à toutes les formes de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc on sait maintenant quel est le support génétique de la susceptibilité à la maladie de Creutzfeldt-Jakob? C'est l'homozygosie au codon 129. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les principales hypothèses sur la nature des prions? Il y a en gros deux grandes catégories d'hypothèses. Les hypothèses virales, hein, qui disent qu'il n'y a pas d'agent infectieux non visible en microscopie électronique qui ne soit pas un virus. Mais on est trop bête pour l'identifier, et les gens qui sont les tenants de ces hypothèses rappellent d'ailleurs qu'il a fallu 15 ans pour voir le virus de l'hépatite C au microscope électronique, qu'il a fallu 40 ans pour voir le virus de la Borna disease, et que donc, ça n'est pas parce qu'on ne voit pas un virus qu'il n'existe pas. Hein ? L'autre école, c'est l'école protéique, qui, en fonction des éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, postule que l'agent infectieux est la protéine PRP lorsqu'elle a acquis sa forme anormale dans l'espace. Aujourd'hui, 95% de la littérature scientifique soutient l'hypothèse protéique, l'hypothèse du prion. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prion ? Eh bien, un prion, c'est donc la molécule PRP qui a adopté une conformation, une structure tridimensionnelle anormale stable. Et cette structure tridimensionnelle anormale stable va se propager au sein de l'organisme infecté et voire d'un organisme à un autre. Diapo suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut schématiser ça aujourd'hui ? Eh bien, la protéine PRP est synthétisée, exprimée à la surface de la cellule, et puis au bout de 5 heures en moyenne, elle va être réinternalisée par la cellule pour être dégradée. Par le calcul informatique, et je dis bien uniquement par le calcul informatique, c'est-à-dire c'est un modèle, on montre qu'à partir de la structure stable de la protéine PRP normale, on peut générer une structure instable normale qu'on appelle PRP étoile. Cette PRP étoile a une vie très courte et va rapidement redonner la forme stable. Mais si au moment où cette structure instable normale est générée, il existe dans l'environnement une protéine anormale cette fois-ci, eh bien vous allez avoir accrochage entre les deux formes, comme on dit en chimie dimérisation, entre la protéine normale sous sa forme instable et la protéine pathologique. Et cet accrochage, cette interaction directe entre protéine normale et protéine anormale fait que la protéine normale va adopter la structure tridimensionnelle anormale de la protéine à laquelle elle s'est attachée. Donc à partir d'une protéine normale et d'une protéine anormale, vous avez deux protéines anormales. Ces deux protéines anormales, je vous le rappelle, ne sont pas sensibles aux enzymes qui habituellement les détruisent. Elles vont donc persister dans l'environnement et elles vont à leur tour interagir avec d'autres protéines normales et les transconformer. C'est ce qu'on appelle la théorie de la transmission de conformation pathologique par interaction directe protéine-protéine. C'est la théorie du prion. Diapositive suivante. Et récemment, on a montré que cette théorie était certainement un peu simple par rapport à la réalité et que l'interaction directe entre la forme normale et la forme anormale ne suffisait pas pour générer la forme anormale. Il fallait un troisième et peut-être un quatrième partenaire qu'on appelle pour le moment les protéines X. Et ces protéines X, on pense que ce sont des protéines cellulaires qui sont chargées dans la cellule d'assurer le repliement de leurs camarades. C'est ce qu'on appelle les protéines chaperones. Il existe dans la cellule des protéines qui gouvernent le repliement des autres protéines. Ce sont les protéines chaperones. Donc la théorie du prion est en train de se complexifier un petit peu. Diapo suivante. Alors, quelques mots de santé publique pour terminer. Vous avez tous vu des vaches folles, au moins dans la presse ou à la télévision, diapo suivante, et vous avez tous vu cette courbe qui représente le nombre de cas de vaches folles en Grande-Bretagne. Alors, premier cas suspect, 85. Premier cas diagnostiqué, vraiment, après examen du cerveau, c'est 1986, fin 86 plus exactement. Et entre fin 86 et mi-88, les scientifiques britanniques ont tout fait, ils ont tout compris. Ils ont montré que la maladie était transmissible. Ils ont montré que c'était une encéphalopathie spongiforme et ils ont montré l'origine de la contamination qui était l'utilisation de farine de viande et d'os qui contenait protéines de ruminants et particulièrement des protéines de bovins. Et ils ont donc proposé à leur gouvernement la seule mesure qui avait une chance d'être efficace, qui était l'interdiction des farines de viande et d'os chez les ruminants. C'est ce qu'on a appelé le food ban, le bannissement des farines de viande et d'os, qui a eu lieu mi-88. Eh bien, je vous rappelle que cette maladie des vaches folles met 5 ans à incuber. Donc, les effets d'une mesure administrative prise en 88 ne se voient que 5 ans plus tard. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, 5 ans plus tard, le nombre de cas diminue. Et donc, c'est ce qu'il fallait faire. Et je crois qu'il faut rendre vraiment un hommage absolument vibrant aux scientifiques britanniques qui ont travaillé en peu de temps d'une façon royale, si je puis dire, et qui ont vraiment disséqué cette nouvelle maladie et qui l'ont parfaitement maîtrisée sur le plan scientifique. Diapositive suivante. Mais le point important, c'est cette courbe. Dès lors qu'on a, à partir de mi-88, interdit les farines de viande et d'os aux ruminants, on a donc tari la source de contamination. Donc, aucun bovin né après l'interdiction des farines de viande, c'est ce qu'on appelle les veaux naïfs, nés après l'interdiction des farines, hein, eh bien, aucun de ces bovins n'aurait dû développer une maladie. Eh bien, il y en a 40 000 qui ont quand même fait une maladie. Donc, trois hypothèses. Première hypothèse, il y a persistance de l'agent dans l'environnement. Deuxième hypothèse, il y a une transmission mère-veau. Troisième hypothèse, il y a eu des fraudes sur les farines. Voilà. Alors, la présence de l'agent dans l'environnement, on n'en a pas d'éléments aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous incitent à penser que cet agent persiste dans l'environnement. La transmission mère-veau, on sait qu'elle est possible, mais à faible pourcentage. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que la probabilité de transmission de la mère au veau est possible dans 5% des cas lors des 6 derniers mois de l'incubation de la maladie chez la mère. Donc c'est un mode de transmission mineur et qui ne permet pas d'expliquer ces presque 40 000 cas. Et donc l'hypothèse de mise sur le marché de farine qui n'aurait pas dû l'être, hein, est probablement celle qu'il faut retenir aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors tout le problème que nous avons, c'est est-ce que ça représente un risque pour l'homme ? Diapo suivante. Alors en théorie, je dis bien en théorie, hein, vous pouvez analyser ce risque à trois niveaux. Soit il y a un risque au niveau de la consommation de viande et d'abats, soit il y a un risque au niveau de la consommation du lait et des produits laitiers, soit il y a un risque au niveau de la promiscuité avec les bovins infectés. Alors, la promiscuité avec les bovins infectés. Quatre Britanniques ont développé une maladie de Creutzfeldt-Jakob alors qu'ils avaient eu des vaches folles dans leur troupeau. Hein? On sait aujourd'hui que ça n'a aucun rapport avec la maladie des vaches folles, mais vraiment aucun. Hein? Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne pense pas que la promiscuité avec des bovins infectés soit un facteur de risque de développer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bon. Deuxièmement, le lait et les produits laitiers. Quand vous prenez le lait d'une vache infectée et que vous l'inoculez, vous ne transmettez jamais la maladie. C'est pareil chez le mouton. Et je vous ai parlé au début de cet exposé du courroux. Hein. On connaît quelques centaines de femmes papous qui ont allaité alors qu'elles étaient en fin de période d'incubation, voire même au début de leur maladie. Elles n'ont jamais transmis le courroux à leur enfant. Donc on pense très raisonnablement aujourd'hui que le lait est à mettre hors de cause et que ça constitue vraiment quelque chose qui est à risque quasi nul. Reste la consommation de viande et d'abats. Si vous vous souvenez du petit tableau de l'OMS que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu que le muscle squelettique, c'est-à-dire le beefsteak, ne transmet pas l'infection. Que la majorité de l'infection est dans le système nerveux central. Hein? Et si vous vous souvenez aussi du tableau que je vous ai présenté sur les contaminations à l'hôpital, vous avez vu qu'il s'agissait toujours d'actes qui impliquaient le système nerveux central. Soit en allant prélever, par exemple, des hypophyses qui appartiennent au système nerveux central et en les réinjectant à des patients, soit en opérant des patients neurochirurgicalement et donc en contaminant les instruments de neurochirurgie. Donc ce qui est probablement dangereux dans la vache, c'est le système nerveux central. Et aujourd'hui, on pense que c'est là principalement, pas uniquement, mais c'est là principalement que se situe le problème d'un danger pour l'homme potentiel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour essayer de raisonner un petit peu en termes de risque, il faut des chiffres. Alors aujourd'hui, il y a 180 000 cas en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pardon, hein, à peu près 400 cas en République d'Irlande, il y a un peu plus de 360-380 cas en Suisse, 87 cas en France, presque 300 cas au Portugal. Le Portugal est le pays qui monte, hein. Ils sont en phase ascendante de l'épidémie, et ça vous explique pourquoi il y a actuellement un embargo total, hein, sur les viandes d'origine portugaise dans toute l'Union européenne. Et il y a un cas au Danemark il y a 15 jours, je crois, 9 cas en Belgique, hein, plus des cas importés. Hein. Alors l'Allemagne a eu quelques cas, il a toujours prétendu que c'était des cas importés soit de Grande-Bretagne, soit de Suisse. Bon, vous savez, souvenons-nous que du temps de l'Union soviétique, il n'y avait aucun sida en URSS, hein, de par la loi, c'était interdit. Ben, je pense qu'il en est de la même chose pour la maladie des vaches folles dans certains pays. Et puis alors il y a les cas, je dirais, anecdotiques, un cas aux Falklands, hein, mais les Falklands sont territoire britannique, hein, et puis deux cas au Sultanat d'Oman où la légende dit que Mme Thatcher aurait fait cadeau à l'émir de deux vaches qu'on virait folles. Diapositive suivante. Alors, quand on prend tous ces chiffres, quand on tient en compte la dynamique de population bovine en Grande-Bretagne, quand on regarde l'âge auquel sont abattus les bovins, et qu'on essaye de modéliser le nombre de bovins en incubation qui ont pu passer dans la chaîne alimentaire, on se rend compte qu'il est de l'ordre de 900 000. Donc 900 000 bovins infectés sont rentrés dans la chaîne alimentaire, très probablement, hein, alors qu'ils étaient en phase d'incubation de la maladie, et le pic d'exposition humaine a été en 88. Donc s'il y a danger pour l'homme, hein, c'est dans les conséquences de cette exposition aux alentours de 88 qu'il va falloir la chercher. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour aussi essayer d'approcher le risque, hein, l'une des façons, c'est de regarder est-ce que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est-à-dire, est-ce ces farines de viande qui étaient à l'origine de la maladie bovine, lorsqu'on les donne à d'autres espèces, lorsqu'elles ont été données à d'autres espèces, est-ce qu'elles transmettent la maladie? Eh bien oui, dans les zoos britanniques, les ruminants sauvages qui étaient en captivité étaient nourris avec les mêmes farines que les bovins. Eh bien, vous voyez, vous avez des antilopes, des koudous qui ont développé, des élans qui ont développé des ESST, et on sait maintenant que ce sont des, BS, des maladies bovines. Hein? Donc, la même cause a donné les mêmes origines. Je vous ai parlé des chats britanniques tout à l'heure. Hein? Eh bien, ça a constitué le premier signe d'alerte quand c'est arrivé, parce qu'on a, à l'époque, en 90-91, hein, suspecté qu'il s'agissait bien d'une transmission alimentaire et que, finalement, voir un carnivore infecté par de la viande d'herbivore était un petit peu gênant, et ça nous a fait penser que cet agent était plus pathogène que les prions auxquels on avait l'habitude. Et puis il y a des guépards, en quantité plus, il y en a 9 hein, qui ont été atteints, plus un tigre même. Diapositive suivante. Donc cet agent hein, qui a été généré par l'utilisation des farines de viande et d'os, qui provient probablement de la tremblante du mouton, a infecté des vaches. Les carcasses des vaches malades ont été recyclées dans les farines de viande et d'os, ce qui fait que de plus en plus de vaches ont été infectées et donc que les farines étaient de plus en plus infectieuses. Et cet agent infectieux est capable d'aller infecter des ruminants exotiques et des carnivores comme les guépards, les tigres, les ocelots et les chats. Hein? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Or, autre chose qui est importante pour connaître le risque, c'est où se trouve l'agent infectieux chez la vache malade. Eh bien, chez la vache malade, vous ne trouvez, dans l'état actuel des connaissances, encore une fois, l'agent infectieux que dans le cerveau et la rétine. Vous ne le trouvez pas en dehors. Bon, mais ça, ça ne vous dit pas ce qui se passe avant que la vache tombe malade. Or, c'est avant que la vache tombe malade, quand elle est cliniquement saine, qu'elle peut passer dans la chaîne alimentaire. Hein? Donc, les Britanniques ont fait l'expérience suivante. Ils ont pris une quarantaine de veaux, ils les ont infectés par voie orale avec de l'agent bovin, et tous les 2 mois, ils ont tué 2 veaux, et ils ont réinoculé à la souris tous les tissus et tous les fluides biologiques de ces animaux. Ils ont pu comme ça tracer l'infectiosité. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Mais ils ont montré que pendant les 4 premiers mois, on ne voyait plus rien, il y avait une phase d'éclipse, qu'à partir du 6e mois, on trouvait l'agent infectieux dans l'iléon terminal, c'est-à-dire dans l'intestin de la vache, hein, et que cette infectiosité dans l'intestin de la vache persistait, hein, à faible niveau, mais quand même détectable, pendant pratiquement toute la période d'incubation, qu'à partir du 30e mois, on commençait à trouver l'agent infectieux dans le ganglion rachidien, c'est-à-dire une structure nerveuse à côté de la colonne vertébrale, hein, et qu'à partir du 32e mois, l'agent était dans la moelle épinière, dans le système nerveux central, les vaches mourant de leur maladie aux alentours de 35-37 mois. Donc vous voyez, l'agent pénètre, traverse la barrière intestinale, se multiplie dans le système immunitaire associé à l'intestin, et probablement en utilisant les petits filets nerveux qui innervent l'intestin, rentre dans les nerfs périphériques et en utilisant le trajet de ces nerfs, remonte jusqu'à la moelle épinière et colonise l'ensemble du système nerveux central. Diapo suivante, s'il vous plaît. Autre chose qui est importante aussi, c'est d'aller regarder quelles sont les espèces susceptibles et quelles sont les espèces qui ne sont pas susceptibles. Voici toutes les inoculations expérimentales qui ont été faites, soit par voie intracérébrale, soit par voie orale. Hein? Alors là, il faut voir tout de suite 3 choses importantes à mon avis. La première chose, c'est que vous savez que les farines de viande qui étaient interdites aux porcs, aux bovins et aux ovins ont été données aux porcs, aux poules et aux poissons. Hein? Alors, les Britanniques, les scientifiques britanniques ont immédiatement inoculé des porcs et des poules. Alors, le porc est sensible lorsqu'on l'inocule par voie intracérébrale. En revanche, avec maintenant 7 ans de recul, on n'a jamais réussi à infecter un porc par voie orale. Hein? Le porc qui arrive dans votre assiette a en général moins de 6 mois. Hein, donc on peut penser que le porc ne constitue pas un problème majeur. La poule, hein, eh bien la poule, que ce soit par voie intracérébrale ou par voie orale, on n'a jamais réussi à l'infecter. Et maintenant on est à 4 ans de recul, et 4 ans c'est déjà de la vieille poule. Hein, voilà. Hein. Alors, reste... Ce qui est intéressant dans cette diapositive, ce sont les chiffres entre parenthèses. Ces chiffres entre parenthèses vous donnent la période d'incubation. Et dans la problématique des maladies embryons, la période d'incubation reflète la susceptibilité. Hein ? Eh bien, regardez par exemple, lorsque vous inoculez un mouton avec par voie intracérébrale, il fait la maladie en 14 mois, par voie orale en 18 mois. C'est très proche. Hein ? Le wison, 12 mois par voie intracérébrale, 14 mois par voie orale, c'est quasiment identique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'agent bovin se propage assez facilement par voie orale. Hein ? Et ça, c'est une propriété biologique qu'il faut prendre en considération. Et enfin, pour fixer les idées, quelles sont les doses qui sont nécessaires à infecter ? Eh bien, 1 gramme de tissu cérébral suffit à infecter un veau par voie orale. 500 mg de cerveau de vache malade suffisent à infecter un mouton par voie orale. Hein ? Donc vous voyez, il n'en faut pas beaucoup pour infecter par voie orale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le 20 mars 1996, le ministre de la Santé britannique est allé dire aux communes qu'il avait des indicateurs faisant penser que la maladie des vaches folles était passée chez l'homme. Alors, quels étaient ces indicateurs ? Bien, il y avait eu, en quelques mois, 10 cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob chez des Britanniques qui avaient moins de 40 ans, et pour 9 d'entre eux, moins de 30 ans. Diapo suivante. Et vous savez que la maladie de Creutzfeldt-Jakob, habituellement, touche l'homme et la femme de 60 à 65 ans. Donc, avoir des cas à 20 ans ou 30 ans, c'est exceptionnel. Ça arrivait dans la littérature, mais une fois tous les 10 ans. Hein ? Ou bien, quand on avait des cas jeunes, on pensait à une contamination chirurgicale ou à une contamination par l'hormone de croissance. Or, ces 10 cas n'avaient jamais été opérés et n'avaient jamais reçu d'hormone de croissance et n'avaient pas de mutation dans le gène de la PRP. Qui plus est, ils étaient répartis dans tout le territoire britannique et donc il n'y avait pas une zone géographique où il y aurait pu avoir une épidémie restreinte. Hein ? Qui plus est, cette maladie de Creutzfeldt-Jakob se présentait différemment des autres Creutzfeldt-Jakob. En particulier, elle débutait comme une maladie psychiatrique. Hein, les 6 premiers patients ont été hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques pendant 6 mois, avant qu'on se rende compte qu'il s'agissait d'un Creutzfeldt-Jakob. Il y avait des grandes douleurs des lombes et des membres, qui n'existent habituellement pas dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Qui plus est, la durée de la maladie était très longue. Je vous disais tout à l'heure que le Creutzfeldt-Jakob habituel, c'est 6 semaines, 6 mois. Et bien là, c'est 14 mois en moyenne. Et enfin, diapo suivante, lorsqu'on regardait le cerveau de ces patients, on mettait en évidence des plaques comme ceci, entourées de vacuoles, qui donnent des aspects en marguerite qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle des plaques florides. Hein ? Eh bien, on était donc en face d'une nouvelle maladie, une forme émergente, une nouvelle maladie de Creutzfeldt-Jakob. Hein ? Et quand vous êtes ministre de la Santé d'un pays où il y a 180 000 cas de SB, vous êtes bien obligé de faire le lien, dès lors qu'aucune autre hypothèse ne tient la route. Et donc, le lien a été proposé. Alors, qu'en est-il depuis ? Ben, nous avons aujourd'hui 52 cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob sous sa nouvelle forme, le nouveau variant, en Grande-Bretagne, 2 en France et 1 en République d'Irlande. Donc, vous voyez, 52 cas en Grande-Bretagne, 3 en dehors de Grande-Bretagne. 180 000 cas de maladie bovine en Grande-Bretagne, moins de 1000 en dehors de Grande-Bretagne. Donc, similitude géographique de la répartition de la maladie bovine et de la maladie humaine. La maladie humaine arrive 10 ans après la maladie bovine, 86-96. C'est donc compatible avec un passage de la vache à l'homme. Diapo suivante. Le premier élément expérimental est venu de mon laboratoire où un vétérinaire chercheur qui s'appelle Corinne Lasmezas avait, en 1991, inoculé des singes avec l'agent de l'encéphalopathie bovine, parce qu'après l'histoire des chats, on commençait à avoir de gros doutes et on voulait regarder la pathogénicité de cet agent bovin pour des primates. Et on a eu la surprise de voir que ça passait bien chez le singe, d'une part, mais surtout, quand les Anglais nous ont montré ce qu'ils observaient chez l'homme, on a fait tout de suite le parallèle avec ce qu'on observait, nous, chez les singes, c'est-à-dire que l'agent bovin reproduit chez le primate les lésions spécifiques de cette nouvelle forme de maladie de Creutzfeldt-Jakob que sont ces plaques florides. Donc, similitude des lésions induite par l'agent bovin et par l'agent du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Diapositive suivante. Ensuite est venu un argument biochimique qui est venu du laboratoire de John Collins à Londres, où il a montré que, sans rentrer dans les détails, mais le profil de migration en électrophorèse de la protéine du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ne ressemble pas du tout à ce que l'on voit dans les autres formes de Creutzfeldt-Jakob. Eh bien, ce profil-là se retrouve aussi chez le singe infecté par l'agent bovin et chez la souris infectée par l'agent bovin et chez le chat infecté par l'agent bovin. Donc, similitude biochimique entre l'agent bovin et l'agent du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Diapo suivante. Et enfin, la preuve ultime, tout du moins dans l'état actuel de nos connaissances, puisque nous ne savons pas ce qu'est un prion, on ne peut pas dire que deux prions sont identiques. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que leurs propriétés sont identiques. Hein? Eh bien, Moira Bruce à Édimbourg a typé les propriétés biologiques des prions bovins et des prions humains de Creutzfeldt-Jakob sous sa forme classique et sous sa nouvelle forme. Elle a montré que la nouvelle forme de Creutzfeldt-Jakob avait des propriétés biologiques très différentes des anciennes formes ou des formes de Creutzfeldt-Jakob classiques, mais que ces propriétés du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob étaient strictement identiques aux propriétés de l'agent bovin. Donc aujourd'hui, on doit considérer que l'agent bovin est passé à l'homme, hein, et que le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est bien lié à la contamination de l'homme par l'agent bovin. Diapositive suivante. Et donc, vous voyez, ces flèches blanches résument l'ensemble des transmissions par voie orale qui sont possibles avec l'agent bovin. L'agent bovin est capable d'infecter des moutons, des chèvres, des élans, des antilopes, des souris, des chats, des pumas, des guépards, des visons. Et il faut enlever maintenant le point d'interrogation. Il est capable d'infecter l'homme par voie orale. Hein? Donc, il faut en prendre conscience, hein. Il faut que les autorités dont c'est le métier prennent toutes mesures pour éviter que l'homme ne soit exposé à cet agent. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est quel est le comportement biologique de cet agent bovin passé chez l'homme. Est-ce qu'il se comporte comme un agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob habituel, auquel cas toutes les mesures sanitaires qui sont en place, en particulier dans les hôpitaux pour la stérilisation, sont efficaces? Ou bien est-ce qu'il se comporte différemment, auquel cas il faudra à ce moment-là engager très rapidement des actions de recherche pour évaluer le risque transfusionnel, le risque lié aux greffes et le risque lié aux interventions neurochirurgicales. Diapositive suivante, qui je crois est la dernière. Je vous remercie de votre attention.
Des balles, ma vache. Hein?
Merci, professeur, pour ce magnifique exposé. À propos du courroux, je me pose une question. Aux environs des années 50, il y avait énormément d'ethnologues qui faisaient des recherches en Nouvelle-Guinée, etc.
Oui.
Est-ce qu'on a constaté, parce que les ethnologues, par définition, s'adaptent aux modes de vie locaux.
Peut-être pas jusqu'à participer au rite cannibale.
Pardon ?
Peut-être pas jusqu'à participer au rite cannibale.
Enfin, il faisait pas mal d'études là-dessus.
Oui,
est-ce qu'éventuellement...
Alors, jusqu'à présent, aucun cas n'a été rapporté chez des gens non forés qui ont vécu avec les forêts. Ce qui montre bien l'importance de la structure génétique dans la susceptibilité au courroux, madame, voyez-vous.
Autre question rapide, on n'a pas parlé de la transmission du mouton, cervelle de mouton, etc.
Oui.
Vache-mouton, mais mouton-homme.
Le risque du mouton pour l'homme. Alors, dans l'état actuel des connaissances, mais je serai là encore, je crois qu'il faut rester prudent, ce que j'espère avoir fait passer comme message, c'est le nombre de points d'interrogation qui persistent. Hein. Donc, dans l'état actuel de ce qu'on connaît, il n'y a pas de risque particulier de la tremblante pour l'homme, tremblante du mouton pour l'homme. Je vais tout de suite faire un certain nombre de remarques et de bémols. Première remarque, des pays sans tremblante, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont autant de Creutzfeldt-Jakob que les pays avec tremblante. D'accord ? Et un pays avec énormément de tremblante, qui est l'Islande, n'a pas plus de Creutzfeldt-Jakob que les autres pays. Deuxièmement, néanmoins, s'il y a un lien, il est faible. Et les liens épidémiologiques faibles de maladies rares qui peuvent incuber 40 ans, sont pratiquement impossibles à détecter. Hein?
Oui. Pourquoi est-ce que le prion modifié tue le neurone,
oui,
et ne tue pas les cellules intestinales, qui est la voie d'infection elle-même. Ah. Est-ce qu'on connaît les mécanismes ?
Alors, vous posez là une question extrêmement importante. Hein. Alors, j'ai un tout petit élément de réponse, en sachant très bien qu'il n'est absolument pas satisfaisant. C'est que la dynamique de multiplication du prion est lente. Hein. Premier point. Donc, ce qui veut dire qu'au sein d'une population cellulaire donnée, peu de cellules vont être infectées au même moment. D'accord ? Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si vous avez une population cellulaire, cette fois-ci, qui est capable de se renouveler, comme c'est le cas du système immunitaire, comme c'est le cas du système intestinal, vous allez pouvoir remplacer ces quelques éléments qui sont tués par la présence du prion. En revanche, dans le système nerveux central, il n'y a pas possibilité de régénérer le stock neuronal, et donc petit à petit, ce stock va s'amoindrir et va aboutir à l'émergence des signes cliniques. Alors je reconnais que ce n'est pas parfait, hein. Je reconnais que c'est hautement critiquable, mais c'est la seule chose que j'ai à vous dire là-dessus, sur ce point.
Oui, j'ai entendu dire que les fabricants de farine animale, aujourd'hui pour certains, changeaient la cible de leur farine et les utilisaient comme fertilisants dans le domaine agricole, en les pulvérisant sur les feuilles de légumes ou cultures légumières ou autres. Est-ce que ça peut présenter un danger pour l'homme, par exemple, qui consommerait des tomates non lavées, ou pour les animaux, si des bovins vont à nouveau consommer des prairies qui ont été traitées par ces farines?
Alors, si vous voulez bien, je vais prendre un petit peu de temps pour ce point, parce qu'il m'apparaît important. Je crois qu'il ne faut pas mettre toutes les farines dans le même sac, si je puis dire. Hein ? Vous avez les farines qui ont été fabriquées à partir matières soit infectées, soit douteuses. Hein. Et puis vous avez les farines qu'on appelle farines sécurisées, qui, au moins en théorie, ne présentent pas de risque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une farine sécurisée ? Une farine sécurisée, c'est une farine préparée avec une carcasse de bovin ou d'ovin reconnue apte à la consommation humaine, d'accord ? Et dont vous avez éliminé ce qu'on appelle les abats à risque spécifiés, c'est-à-dire la rate et le cerveau. Hein, et les intestins, chez les ovins et les bovins, bon, c'est un petit peu différent en fonction des espèces, mais en éliminant ces organes-là de la fabrication de la farine, vous éliminez ce qui est le plus infectieux chez un animal potentiellement infecté. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que ne rentre aujourd'hui dans la chaîne animale, dans la chaîne alimentaire animale, que ce qui est reconnu apte à la consommation humaine, tout du moins en France. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout pareil dans d'autres pays européens. Deuxième point. Ces abats à risque spécifiés que vous retirez sont incinérés. Ils ne rentrent pas du tout dans la chaîne alimentaire. Et quant aux carcasses d'animaux qui sont soit morts d'encéphalopathie bovine spongiforme, soit qui ne sont pas aptes à la consommation humaine, elles ne rentrent pas non plus dans la chaîne de fabrication des farines. Elles sont incinérées. Donc, sous réserve, je suis prudent, sous réserve d'un respect des réglementations, hein, les farines telles qu'elles sont fabriquées depuis juillet 1996 ont un niveau de sécurité extrêmement important, qui n'est en rien de toute façon comparable avec ce qui était fait avant. Et enfin, dernier point qui est un point important, c'est qu'il y a une directive européenne à laquelle la France s'est pliée en 1997 ou 1998, j'ai plus la date en tête, qui impose de traiter toutes les farines par 133 degrés, 3 bars pendant 20 minutes. Alors 133 degrés, 3 bars pendant 20 minutes n'est pas suffisant pour inactiver des grandes quantités de prions, mais quand même un facteur de sécurité aussi important. Donc, si vous mettez les verrous de sécurité, hein, que vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur une chaîne de fabrication ? Un verrou sur l'origine des matières premières, un verrou sur le procédé de fabrication et un verrou sur le contrôle du produit fini et enfin, quatrième verrou, sur le respect des réglementations. Pour ce qui est des prions, vous n'avez pas de test qui vous permette de détecter le prion dans une farine. Donc l'avant-dernier verrou, il faut l'oublier, on ne peut pas. Donc il faut bien contrôler ces matières premières et bien contrôler que le procédé de fabrication des farines répond bien aux normes qui ont été édictées.
Hein. Question sur l'évolution des cas chez l'homme. Il y a un papier de Anderson dans les Proceedings qui a été publié récemment qui montrait qu'ils font une projection de 10 000, voire 100 000, voire plusieurs millions en fonction des cas déjà déclarés.
Absolument.
Vous pouvez en dire quelque chose ?
Alors, Roy Anderson est quelqu'un d'extrêmement compétent. Hein, et quand donc un excellent biomathématicien comme Anderson vous sort des écarts-types qui vont de 200 cas à plusieurs centaines de milliers, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas modéliser. Hein. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre le maximum de précautions. Parce qu'on est en face de quelque chose qui débute, dont on est incapable de prévoir l'ampleur. Hein. Absolument incapable. Hein. Moi, je vais vous donner un sentiment, ce n'est pas de la science, ce que je vais vous dire. Hein. Mais je pense qu'en Grande-Bretagne, l'hypothèse basse, c'est une dizaine à deux dizaines ou trois dizaines de cas par an pendant quelques dizaines d'années. C'est pour moi l'hypothèse basse, mais je revendique le droit à l'erreur.
Quelle est l'incidence des tests qui ont été récemment découverts sur la prévention?
Alors, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas assimiler ces tests qui constituent un... Alors, ce sont des tests qui permettent de détecter la protéine anormale résistante aux protéases dans certaines zones du cerveau de la vache. D'accord ? C'est-à-dire que ils ne sont valables que pour les broyats de cerveau aujourd'hui. Donc vous ne pourrez détecter une vache infectée qu'au moment où elle commence à avoir de l'agent infectieux dans son cerveau, à condition aussi qu'elle en ait suffisamment pour que le test puisse le mesurer. Donc ces tests sont un progrès considérable par rapport à ce qu'on avait avant, mais on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un animal qui est testé négatif avec ces tests est forcément apte à la consommation. Donc il faut considérer que ce sont des tests de recherche et qui vont permettre d'avancer un petit peu dans l'épidémiologie de la maladie, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Et en particulier, je me permets de continuer là-dessus, il ne faut certainement pas les prendre pour des tests de dépistage tels qu'on en fait pour l'hépatite B, l'hépatite C ou le VIH. Hein ?
Oui, deux questions, s'il vous plaît. Oui. La première, à quoi correspondent les vacuoles qu'on a en anapath ? Et la deuxième chose, c'est vous avez parlé en fait qu'un globule blanc d'enfant traité par hormone de croissance allait infecter et produire des effets. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments sanguins, en fait, qui peuvent transmettre la maladie.
Absolument. Alors, les cellules mononucléées, on le sait.
Donc, le steak haché qui contient des éléments sanguins, qu'est-ce que ça va donner ?
Alors, il y a une... Il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas pu aborder. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une situation difficile parce que la distribution de l'infection, de l'agent infectieux, dans un organisme, dans les maladies à prions, dépend de deux choses. Dépend de la souche de prions que vous utilisez pour infecter et dépend de la génétique de l'hôte. Exemple, lorsque vous infectez une vache par l'agent bovin et que vous allez regarder où se trouve l'agent infectieux quand l'animal est malade, vous en avez uniquement dans le cerveau. Vous n'en avez pas dans le sang, vous n'en avez pas en périphérie du tout. D'accord ? Le même agent bovin, vous le donnez à un mouton, vous allez regarder où se situe l'infectiosité chez le mouton lorsque le mouton tombe malade, vous en avez dans le ganglion, dans la rate, dans le cerveau, vous en avez partout. Voilà. Donc il est extrêmement difficile d'extrapoler, à partir d'observations faites chez l'animal, à ce qui peut se passer non seulement chez l'homme, mais dans une autre espèce animale. Alors, quant aux vacuoles, à votre question, on ne sait pas. Elles sont optiquement vides en microscopie électronique. On pense qu'elles résultent d'une fusion d'endolysosomes dans lesquels la protéine pathologique s'est accumulée. Et comme elles résistent aux protéases, vous savez qu'un endolysosome persiste dès lors que la digestion protéasique n'est pas finie. Donc, il va persister dans la cellule. Et si ce processus se fait plusieurs fois, vous allez avoir fusion des endolysosomes qui va conduire à ces vacuoles. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Voilà, c'était la dernière question. Nous sommes désolés, mais nous sommes vraiment en retard. Merci, professeur Dormont.